Légalisés par les hommes qui considèrent que les époux sont unis pour la vie et que leur union comporte des devoirs vis-à-vis l'un de l'autre ainsi qu'envers la société. Les structures sociales du monde occidental moderne sont basées sur cette institution et l'expérience a montré qu'un relâchement dans la morale du mariage entraîne ipso facto de profondes répercussions dans l'ensemble des couches de la société. Le divorce est en quelque sorte l'aboutissement de ce relâchement de l'éthique de l'union des couples et il constitue un véritable danger pour notre pays. Le mariage a été créé par l'homme et non par le Créateur. Le terme divorce désigne la dissolution légale d'un mariage valide. Dans la majorité des cas, le divorce ne peut être prononcé que pour des causes survenues après le mariage. C'est ce qui distingue le divorce de l'annulation qui, elle, ne joue que pour des raisons ayant existé avant l'union des époux. Il faut admettre que dans notre société moderne, le taux de divorce s'accroît sans cesse et atteint même des proportions alarmantes. La population du monde occidental a subi une augmentation de 356% au cours des 10 dernières années. Mais il est horrifiant de constater que pour la même période, les cas de divorce ont atteint le chiffre record de 2127%. Cela vient à dire que les mariages se rompent maintenant 8 fois plus souvent qu'il y a 50 ans. En 1910, on comptait environ un divorce pour 11 mariages. En 1920, la proportion atteignait 1 pour 6. En 1940, 1 pour 5. En 1946, 1 pour 3. Dès lors, on est heureux de constater que le chiffre se sont quelque peu stabilisés, et qu'il n'y avait plus en 1952 qu'un divorce pour 5 mariages. On pourrait évidemment épiloguer longtemps sur ces statistiques navrantes, mais disons pour les résumer que le divorce est pratiquement devenu un fléau qui ronge les racines mêmes de nos institutions sociales et religieuses. Nombre de facteurs encouragent plus ou moins le divorce. Mariage hâtivement conclu, lois accommodantes, insuffisance de préparation au mariage, absence de volonté de se sacrifier pour que l'union persiste, et bien sûr, manque de respect pour la volonté de Dieu. On peut évidemment encore citer l'adultère, la négligence, la brutalité, la boisson, l'ingérence de la famille dans la vie du couple, et encore bien d'autres. Tout cela représente autant de facteurs déterminants dans les mésententes aboutissant finalement au divorce. Disons également que ce n'est pas en réalité le divorce qui brise le foyer, mais qu'il en est plutôt le signe légal et apparent. En effet, la vraie cause du divorce est le péché. Et combien de ces véritables tragédies pourraient-elles être évitées si nous nous laissions entièrement guider par le concept de l'obéissance absolue à Jésus-Christ? Chaque année, des milliers de ménages sont brisés par la mort, le divorce, la désertion d'un conjoint ou la séparation. On ne peut bien sûr échapper au décès d'un conjoint, mais on pourrait la plupart du temps, avec un peu de bonne volonté, éviter le divorce, la désertion du foyer ou la séparation. Le mal qu'apporte le divorce est bien plus étendu que nous ne pouvons nous le figurer. Il se manifeste dans nombre de domaines. La vie ainsi que le psychisme des enfants et des adultes s'en trouvent affectés dans des proportions pratiquement incalculables. Les blessures qu'il entraîne atteignent les êtres en profondeur et les dégâts sont la plupart du temps irréparables. L'influence qu'exerce le divorce se répand également bien au-delà du foyer pour atteindre l'ensemble d'une communauté, voire la société tout entière. C'est la raison pour laquelle la volonté du maître de l'univers en ce qui concerne ce problème devrait être respectée et prêchée. La parole de Dieu démontre sans aucun doute que l'Éternel s'oppose au divorce et Christ a clairement enseigné le mal qu'il peut faire. Un certain jour, les pharisiens vinrent à lui et voulant le faire tomber dans un piège en lui posant la question insidieuse suivante. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? On comprend aisément que ces hommes hypocrites lui demandent cela dans le but précis de le mettre en difficulté sur le plan doctrinal. Mais le Seigneur leur répond en faisant allusion à la loi de Moïse. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attacha à sa femme et les deux deviendront une seule chair ?» Ainsi, ils ne sont plus deux, continue Jésus-Christ, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous apprenons donc par là qu'il est impossible pour l'homme de se séparer de son épouse, car ce serait en quelque sorte arracher un morceau de sa propre chair. Seule la mort, qui est un acte contrôlé par Dieu, peut séparer un époux de sa femme. Aucune législation, aucune cour de justice, aucun juge ne peut par conséquent dissoudre les liens du mariage. Telle est l'absolue volonté de Dieu. Il en va de même pour toute église ou tout décret ecclésiastique, quel qu'il soit. Eux non plus ne peuvent séparer quelqu'un du compagnon de sa vie. Ajoutons que quand bien même il le ferait, le mariage n'en serait pas moins toujours valable aux yeux de Dieu. Mais revenons aux pharisiens et notons leurs objections à la réponse du Seigneur Jésus. Ils rétorquent « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Ils en avaient conclu que puisque Moïse avait autorisé le divorce, il était toujours permis d'appliquer la même loi. Mais Christ les détrompe aussitôt, en leur donnant tout d'abord la raison pour laquelle Moïse avait décrété cela au nom de l'Éternel. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. » Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le Seigneur montre donc que le divorce n'est que permis, toléré, à cause de la dureté du cœur du peuple. Moïse permettait que cela se fasse, mais eux, ils en avaient fait une règle, et même pratiquement un commandement. Christ indique ici que dans l'intention première de Dieu de faire le mariage devait être une union permanente de l'homme et de la femme, et que seule la mort pouvait les séparer. Cette mise au point faite, Jésus va maintenant appliquer son enseignement à cette ancienne loi. Il va donner une règle qui va s'appliquer à la nouvelle dispensation, à l'ère chrétienne, et qui va faire partie du Nouveau Testament. Il commande, « Mais je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ceci prouve une fois de plus que dans l'esprit de Jésus, le mariage est contracté une fois pour toutes, mais que par contre, il peut être dissous pour cause d'infidélité. Cette règle que donne ici le Fils de Dieu est claire. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère. Tout ceci est exprimé par des mots clairs, simples, et qui ne peuvent se prêter à une interprétation particulière. Il n'existe qu'une seule exception à cette indissolubilité du mariage, sauf pour infidélité. De plus, celui qui épouse l'infidèle devient lui-même adultère. Il n'existe donc, d'après la loi de Dieu, qu'une seule offense qui permette de rompre valablement le contrat que représente le mariage, et c'est l'infidélité, autrement dit l'adultère, la fornication. Telle est la volonté de Dieu, exprimée par son Fils. Tout mariage, donc, qui se fait après un divorce effectué pour une cause autre que l'adultère du conjoint, devient lui-même adultérin et illicite, divinement parlant, s'entend. Tout cela est écrit noir sur blanc dans la Bible. La fornication, au sens propre du terme, désigne les relations sexuelles effectuées par une personne non mariée, alors que l'adultère est un acte sexuel accompli volontairement par une personne mariée avec un partenaire autre que son conjoint légal. Cependant, il ne faut pas jouer sur les mots, car Jésus englobe dans le mot adultère tout acte sexuel illicite, quel qu'il soit. Nous vivons aujourd'hui sous la grâce et non plus sous la loi de Moïse. Et nous devons par conséquent nous conformer uniquement aux enseignements du Christ. C'est par sa loi que nous sommes maintenant guidés. L'adultère du conjoint peut donc seul nous autoriser à divorcer et à nous remarier, tout en demeurant conformes à la volonté de Dieu. Et c'est un fait très important. divorces extrêmes prévalent souvent en matière de divorce. Certains, en effet, sont prêts à vouloir ignorer les enseignements de Jésus à ce sujet, mais n'en admettent pas moins diverses exceptions. D'autres, par contre, contestent la seule réserve dont parle le Seigneur et pensent qu'on ne peut jamais divorcer pour plus tard se remarier avec quelqu'un d'autre. Il est également, dans ce cas, essentiel d'apprendre à ne pas aller au-delà de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Nous venons de lire dans le Nouveau Testament que Christ prévoit une exception à la règle de l'indissolubilité du mariage, mais une seule. Si nous voulons rester fidèles à ce qu'il a enseigné, nous n'avons donc pas le droit d'ignorer purement et simplement cette seule exception que constitue l'infidélité. Jésus est le Seigneur à qui Dieu a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et nous devons accepter sa parole comme ayant force de loi. Une lecture attentive de 1 Corinthiens chapitre 7 et de Romains chapitre 7 nous montre sans doute possible que le mariage ne peut être dissous que par le décès d'un des deux conjoints. Voilà en ce qui concerne la règle générale. Mais il y a cependant une exception, l'infidélité. Prenons un exemple. Dans la plupart des agglomérations urbaines, la vitesse limite est fixée d'une manière très stricte par la loi. Cependant, une ambulance peut très bien, si besoin en est, dépasser cette limitation. Cette voiture est dans ce cas précis l'exception à la règle générale. Il en est exactement de même pour les enseignements de Christ en ce qui concerne le divorce et le remariage. L'adultère est la seule exception. Si nous voulons protéger notre famille, notre nation, notre société, nous devons faire partie d'une Église qui respecte la vérité qu'a enseigné le Maître. Jésus-Christ. Avant de se marier, nos jeunes devraient avoir étudié la volonté de Dieu au sujet du mariage et du divorce. La parole de Dieu doit être notre guide absolu en toutes choses et en particulier dans ce cas précis. La nature du mariage ne doit pas dépendre seulement de ceux qui l'ont contracté, mais de Dieu seul. C'est lui qui l'a institué et non les hommes. Christ a restauré le mariage dans toute la dignité qu'avait prévu Dieu dès l'origine des temps. Et ce n'est pas à l'homme qu'il appartient d'y changer quoi que ce soit. Pour diverses raisons, les êtres humains se permettent de changer à leur manière ce que l'Éternel a décidé. Et il faut que nous sachions que nous devons un jour rendre compte pour avoir participé à ces changements.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms et ne sont attachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le Bible et le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlerons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition. Sans engagement, écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398. 31086 Toulouse CEDEX, je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086 Toulouse CEDEX, France. Au revoir, à la semaine prochaine, même heure.